Nous portons déjà la mémoire quelque part de toute l'humanité, elle est en nous, et c'est souvent des angles d'éclairage différents qui viennent à un moment donné nous apporter une nouvelle conscience. Mais cette conscience, nous la portons en vérité. Donc l'éclairage que je vais vous apporter aujourd'hui sur ma vision de l'univers et de la création, sur le processus créatif, puisque la matrice cosmique dont je vais vous parler, et puis dont vous avez vu ici le titre, elle renvoie à la réalité de la création de tout cet univers qui nous dépasse complètement et qui est un mystère, le mystère de la création qu'on appelle communément Dieu, pour certains, d'autres vont l'appeler, la source vitale, fondamentale, qu'importe le nom que l'on va poser, il m'a toujours semblé dans cette neutralité du terme de mystère de la création qu'on pouvait y englober beaucoup de choses. Est-ce que vous l'adoptez ce terme ?
Oui.
Mystère de la création ?
Oui.
Moi, personnellement, j'ai trouvé juste. Alors, j'ai beaucoup réfléchi en tant qu'artiste sur ce mystère de la création. Moi-même, je suis créatif, je suis un créateur, je crée depuis mon plus jeune âge, et ça m'a toujours interpellé ce lien d'intimité entre la création et moi. Je me suis vite rendu compte que le support de la création renvoyait à quelque chose de ma vie intérieure nécessairement. Que dès l'instant où je posais un point sur ma feuille, ce point, ben, c'est moi qui existe, et puis ensuite, ben, tous les mouvements qui vont se passer à l'intérieur sont en lien avec tous mes mouvements à l'intérieur de moi. Et qu'il y avait cette interaction qui était très puissante, et un jour, je me suis complètement perdu dans la création, comme beaucoup d'artistes. Ça me dérange un petit peu ces lumières, hein. Je me sens agressé. Avec ce contre-jour, hein. Si on pourrait baisser un tout petit peu. Hein. Ça me dit. On va pouvoir fermer ici parce qu'il y a un contre-jour en fait qui me gêne.
Il y a un bruit dans cette vague aussi qui est très
désagréable. Absolument aucune certitude. Tout ce que je vais poser sur le processus créatif ne procède pas d'une étude scientifique, procède davantage, j'allais dire, d'une étude intuitive et empirique, parce que ben, je pratique des stages, et je vois ici que les stagiaires qui ont bien participé à mes stages qui sont présents. Donc tout ce que je vais poser, ça sera nécessairement en lien avec cette histoire empirique et personnelle, et non pas, et ça ne procède pas d'une démarche scientifique calculée, même si entre la science et l'art, à un moment donné, un certain niveau de conscience on se retrouve, je me suis aussi intéressé au processus de la création sur un plan scientifique, et on se retrouve à un certain niveau lorsqu'il nous parle du Big Bang comme étant pas forcément le point zéro, mais le point initial à partir duquel ce monde a été créé et ce monde qui est en expansion. Lorsque nous sommes pleinement à l'écoute de notre intuition, nous sentons très bien cet élan créatif. Ce mouvement que nous portons en nous, c'est ce mouvement originel de la création depuis que le monde est monde, et nous portons quelque part en lien par ce nombril qui est en nous. Et ce nombril, quelque part, moi en tant qu'homme, je ne le porte pas autant que la femme, parce que ce nombril, il est en lien avec l'utérus, il est en lien avec le processus créatif qui procède en fait de quelque chose de féminin et non pas de masculin. Et ça, effectivement, sur un plan religieux, les gens, avec tout le dictat des hommes, moi-même aussi, à un moment donné, j'ai été en porte-à-faux, et il m'a bien fallu reconnaître la suprématie de la femme qui porte la vie. Et le processus créatif, en fait, cette matrice cosmique, j'allais dire, c'est comme une grande vulve, finalement, et qui palpite, et qui génère la création. Donc, comme vous la voyez ici, donc là, bien sûr, je l'ai symbolisé par ce cercle qui symbolise toute la création au sens fort du terme. Et dans toutes mes recherches, je me suis rendu compte que cette grande matrice, elle palpitait à travers différentes étapes dont on va parler, puisque, comme je vous avais dit, les scientifiques et moi, nous allons nous rejoindre en ce sens qu'il y a quatre étapes fondamentales, comme vous le savez, c'est le fameux processus des règnes qui explique un petit peu ce qu'on appelle la cosmogénèse, donc qui passe par le minéral, végétal, animal, humain. Et puis moi, en tant qu'artiste, je me suis rendu compte qu'il manquait une dimension fondamentale par rapport aux recherches des scientifiques. La dimension du divin, la dimension de ce moi créateur qui est au plus profond de moi-même et que je porte et avec lequel nous sommes en lien. Donc il y avait une dimension spécifiquement temporelle qui a été apportée par les scientifiques, mais il n'y avait pas cette dimension spirituelle que nous portons tous en nous. Nous sommes bien sûr une masse, j'allais dire, énergétique faite de molécules. Nous sommes tous d'accord jusque-là, mais cette masse moléculaire, elle vibre. Elle vibre sous la pulsion d'une vie qui est en nous et qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas tangible, que nous ne pouvons pas palper. Alors, bien sûr, dans tout ce que je vais poser, oui, je te vois, c'est quelque chose qui me dit. Il y a un petit bruit de dons. Alors bien sûr, n'hésitez pas de m'interrompre en cours de route si vous avez des questions particulières ou plus précises pour qu'on puisse aller encore plus loin, parce qu'il m'a toujours semblé que nous grandissons ensemble dans la compréhension de cette réalité créatrice dans laquelle nous sommes tous quelque part impliqués. Nous sommes tous en train de pétrir spirituellement cette grande pâte humaine que nous sommes, et elle n'est pas que matière, et nous le savons tous. Si elle n'était que matière, nous serions bien limités, et nous savons très bien qu'aujourd'hui, le règne de la matière va bientôt s'épuiser, et il faudra bien qu'on fasse un jour appel à cette énergie créatrice, à ce moi créateur qui est extrêmement puissant et qui est ce fameux moi divin. Je préfère l'appeler le moi créateur, ça me semble beaucoup plus juste et quelque part plus... plus modeste. Voilà, je peux parler du moi divin qui peut peut-être effrayer certaines personnes. Donc le moi créateur me semble le plus approprié et plus accueillant, quelque part, par la majorité. Alors, je vais vous faire ici un autre plan, finalement, cette matrice. Ça, c'est sur un plan, quelque part, de la création de notre planète, du monde, mais sur un plan beaucoup plus large. Voilà un petit peu les réflexions où elles sont, et nous pouvons en parler ensemble. Alors, je ne sais pas si tout le monde va voir, là, ça ne va pas être... tout le monde voit, vous voyez un petit peu ici? D'accord? Voilà. Donc, on va considérer... On va considérer que toute la création, elle est là, mais cette création, donc avec ce centre, cette création, elle n'englobe pas que ce système solaire, que cette galaxie. Il y a plein d'autres galaxies qui sont là. Alors ici, ça peut être notre système solaire, il y a plein d'autres systèmes solaires qui sont là, et qui nous dans d'autres systèmes pas forcément solaires, je veux dire, qui nous dépassent complètement, et qui peut-être dans d'autres temps, moi c'est la question que je me suis interrogé, et on peut s'interroger aussi ensemble, je me suis dit, mais peut-être que toutes ces galaxies, ce qu'on appelle aujourd'hui ces trous noirs, qui ont tous un centre qui dépasse complètement les scientifiques, et que personne encore, à ce jour, n'a réussi à explorer, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le mystère, ils ont tous un centre. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres systèmes, effectivement, là il y aurait des petits extraterrestres, hein, qui viennent d'un autre monde, qui justifieraient les histoires des ovnis. Mais moi je me suis dit, mais peut-être aussi, on va rentrer un petit peu dans les légendes des enfants, mais peut-être aussi que ça c'est peut-être le paradis, peut-être qu'il y a un enfer, qu'est-ce qu'on en sait? Lorsqu'on rentre dans ce mystère de la création, on se dit, mais tout est possible. Tout ce que nous pouvons imaginer peut exister. Et nous sommes d'ailleurs dans l'espace des possibles, où effectivement, ben, il n'y a plus de limite lorsqu'on rentre dans cette grande compréhension de la vie. Et alors, donc lorsque vous voyez ici, c'est à notre échelle, que la voilà. On va considérer qu'elle est là. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Mais c'est inscrit dans quelque chose de bien plus vaste. Et peut-être que dans d'autres temps, dans d'autres civilisations, il y a eu des communications. Quand on voit certaines anciennes civilisations, comme celle des Mayas ou autres, ou des Égyptiens, on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas reçu la visite d'êtres plus évolués venant d'un autre système? Mystère et boule de gomme. Avant de continuer plus loin, peut-être que vous avez des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour le histoire du paradis d'enfer, qu'il y a une dimension mythique.
Oui, non, bien sûr, certainement. Mais je suis tellement d'accord. Il y a une dimension mythique, certainement, qui est liée aussi à tout un conditionnement judéo-chrétien, arabo-musulman, etc. Certes, bien sûr, mais je dis que tout est absolument possible dès l'instant où l'imaginaire l'a créé, il existe peut-être quelque part, ne serait-ce que dans mon imaginaire. Et le monde de l'imaginaire, il est infini et extraordinaire. Nous ne savons pas. Alors, bien sûr, dans certains systèmes de croyances, on va parler de réincarnation. Mais lorsqu'on rentre dans cette croyance de cette roue cosmique, on s'aperçoit que tout est possible, même la réincarnation, et on va le voir ici dans cette roue. Alors voilà un petit peu ce que j'ai à vous partager. Cette roue, c'est la création de notre système à nous, notre galaxie. Il y a eu la création, ce grand mystère qui a dépassé tout l'entendement humain et qui semble commencer au Big Bang selon les scientifiques. Mais les scientifiques aujourd'hui se sont posé la question, est-ce qu'il y avait eu un point zéro au niveau de la création? Et ils se rendent compte que, ben non, cette expansion que nous avons, je veux dire depuis que le monde est monde, il y a des millions d'années jusqu'à aujourd'hui, a probablement existé dans le sens inverse. Il y a des hypothèses, il y a plein d'interrogations sur ce point zéro qui ne serait pas un point zéro, un point initial à partir duquel tout le système solaire, toute cette galaxie serait créée. Ben non, la même expansion aurait été faite dans le sens inverse. Et là, on se dit, mais alors, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et lorsqu'on rentre dans le mystère de cette matrice cosmique, oui, c'est absolument possible, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette matrice cosmique, tout à l'heure je vous avais dit, c'est un petit peu comme une sorte d'utérus, il m'a toujours semblé, quand je suis en création, qu'elle palpite. Il y a une palpitation à l'intérieur, ça serait, alors là on la voit bien sûr sur un plan de coupe, mais si on la voit sur un plan beaucoup plus sphérique, si c'est une sphère, on va imaginer qu'elle palpite comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui expliquerait que nous passons par des états complètement différents. On passe du minéral, végétal, animal, humain, divin. Ça, c'est le processus de la création. Il y a eu la création qui est venue, il y a eu les planètes qui sont mises en place. Il y a eu ensuite la vie, le règne animal, le règne humain et le règne divin, qui est là et que nous portons en nous. Et c'est lui qui animerait quelque part, tout serait animé par ce centre. Et la matrice est palpite, et nous, dans cette matrice cosmique, eh bien, notre ventre qui a avec le nombril palpite de la même manière. Sur le plan émotionnel, nous palpitons au même rythme et nous traversons différents états dont je vais vous parler. Nous traversons cette étape minérale, végétale, animale, humaine et divine, et nous pouvons être à des étapes différentes. Telle ou telle personne peut être aujourd'hui à l'état minéral, dont je veux bien sûr vous poser quelques mots sur sa correspondance sur le plan émotionnel, et puis vous pouvez le lendemain vous retrouver à l'étape animale. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'humanité soit entre le règne animal et le règne humain. Et c'est une minorité qui se trouve entre le règne humain et le règne divin. Alors sur le plan... Je vais reprendre cette matrice cosmique autrement. Alors, on va essayer de jeter un petit coup d'œil sur les systèmes des croyances, comment fonctionnent les systèmes de croyances par rapport à ce mystère de la création. Voilà où j'en suis arrivé dans mes réflexions. J'en suis arrivé que, voilà, par exemple, moi je suis musulman, je suis là. Un tel est chrétien, un tel est juif, un tel est je ne sais pas quoi, un tel est schtroumpf, je ne sais pas quoi, voilà. Un tel, voilà, a choisi un chemin de liberté qu'il a créé lui-même, etc. Voilà. Et nous allons tous ici. Nous sommes tous aspirés. Qui a raison, qui a tort, ça n'a aucun sens. Nous sommes tous attirés par cette matrice cosmique qui ne cesse d'engendrer la création. Ça crée et ça recrée. Voilà pourquoi l'histoire des réincarnations est quelque chose de tout à fait probable lorsqu'on rentre dans le mystère de la palpitation de cette matrice qui brasse à partir de ce centre qui échappe complètement à tous les scientifiques, à toutes les personnes, même les grands maîtres spirituels reconnaissent qu'il y a un mystère qui nous dépasse complètement. Alors, et il semblerait, mais là c'est assez hâtif comme conclusion, il semblerait que nous soyons le secret de ce mystère. Nous portons ce secret. Et que nous sommes en lien avec cette matrice, et que nous soyons tous, donc, effectivement, des petits dieux. Et cette grande matrice cosmique, eh bien, c'est nous. Et peut-être que, ben oui, on meurt, et en fait, on ne meurt, ça n'a pas de sens, ça. Il y a un temps de croissance qui s'achève, un petit peu à l'image de la nature, et puis ensuite, ben, ça rebrasse vers l'intérieur, et on repart. Et quand ça rebrasse, toute la mémoire s'efface, et la matrice recommence à palpiter indéfiniment. Et que demain, si les êtres humains détruisent ce système galactique, eh bien, il y a d'autres systèmes qui existent et qui continuent de palpiter. Et qu'elles continuent à palpiter à l'infini. Il n'y a pas le temps cosmique n'est pas du tout en correspondance avec le temps que les humains ont mis en place. Est-ce que vous avez une petite question ou une grande?
On pourrait même dire donc que chaque système solaire, enfin, comme tu l'as dessiné,
chaque galaxie,
serait en relation les uns avec les autres.
Ah oui, ah oui. Ah oui, ils sont tous en relation en vérité. Nous sommes en lien. Nous sommes en lien, quoi. Et nous portons ce lien en nous quelque part. Dans nos rêves, parfois, nous pouvons voyager dans d'autres galaxies, dans d'autres civilisations. Hein. Des fois, on se relève le matin et puis ça nous est tous arrivé de faire des rêves étranges, où on s'est vu dans une autre planète, dans un monde bizarre, étrange. Tout est possible. Alors, pour revenir un petit peu à cette matrice donc, qui nous concerne, nous, sur un plan temporel, donc elle est en correspondance avec la création de l'univers de notre système à nous. Notre système à nous, donc, il y a eu cette création minérale, la matière. Et nous portons... cette pulsion créatrice originelle, nous la portons tous en nous. C'est cet élan qui nous pousse à nous mouvoir, qui est en moi et qui me pousse à bouger. Cet élan vers la vie, eh bien, il est poussé par l'énergie créatrice. Et nous serions peut-être des projectiles finalement de ce Big Bang dont nous parlent les scientifiques. Nous sommes tous peut-être des projectiles, et puis nous sommes propulsés, et nous continuons d'avancer, et nous ne savons pas où. Et lorsque nous parlons de lâcher prise, et bien c'est peut-être ça, le lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, je laisse la vie me projeter, et il n'y a peut-être absolument aucun effort à fournir, si ce n'est de laisser tout simplement cette énergie que je porte en moi me mener là où je dois aller. Et que ce sont les résistances, quelque part, qui nous font souffrir, qu'on résiste et puis on heurte ses voisins les uns et les autres. Et c'est ce qui nous empêche, quelque part, de cheminer avec fluidité. Mais en même temps, cette énergie primordiale de la création, elle nous propulse. Mais dans cette propulsion que nous portons en nous, elle génère beaucoup de peur. Voilà pourquoi je l'ai associé quelque part à une énergie du chaos. Le rêve de la création, il y a quelque chose de chaotique dans ce mouvement que nous portons tous en nous. Nous portons ce mouvement chaotique et il m'a toujours semblé que notre difficulté du lâcher-prise, c'est tout simplement d'accueillir ce chaos qui est en nous. Alors, dans cette démarche que j'ai mise en place, j'ai considéré que cette étape du minéral, elle était en lien avec justement le lâcher prise. Qu'elle est en lien avec le lâcher prise. Lâcher prise avec.
Merci. Merci de pas dévoluer.
Lâcher prise avec toutes ces forces chaotiques que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Et c'est quoi ces forces chaotiques qui nous traversent? Quelle est leur correspondance sur un plan temporel aujourd'hui? Eh bien, ces forces chaotiques, ce sont toutes ces folies, toutes ces perturbations que nous portons. Il y a un criminel qui est en moi, qui a envie de tuer. Il y a quelqu'un qui a envie, il a envie de sortir nu et puis de faire le fou. Il a envie de je ne sais pas quoi. Et nous portons tout ça en nous, toutes ces turbulences qui sont là. Ce sont ces forces chaotiques qui sont là. Et le lâcher prise, c'est ne pas avoir peur. C'est même pas ne pas avoir peur. Le terme n'est pas juste. C'est d'accueillir quelque part toutes ces peurs qui sont là. D'accueillir ce mouvement et de le laisser être là, tout simplement. Puisque dans ce mouvement, il y a ces peurs, et nous ne pouvons pas échapper à ces peurs. Nous devons donc accueillir ces peurs. C'est ce mouvement originel qui me pousse. Et ce mouvement, en fait, vers quoi il me pousse, dans ma croyance à moi, dans ce que je suis en train de vous partager, il me pousse vers le centre, vers cette fameuse matrice qui palpite. Ça va du centre vers l'extérieur. Vous avez souvent entendu parler des gens qui vont parler de mandala, où on part du centre vers l'extérieur, l'extérieur vers l'intérieur. Et très souvent, je n'ai pas toujours trouvé de clarté, de réponse tout à fait claire par rapport à ce principe, dont la réponse m'a été donnée quand je suis rentré dans cette conscience de la palpitation de cette matrice qui va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous portons tous ce mouvement. Et alors, vous allez voir ensuite. Donc ensuite, on passe au végétal. Le végétal, donc, qui est en lien avec le processus de la création. Le processus de la création, donc, qui passe du minéral vers le végétal. Le végétal, eh bien, c'est la création de ce monde avec les arbres, l'eau, etc. Tout le système qui s'est mis en place, la gravité, etc. Tout ça s'est mis en place. C'est la naissance de la vie. Donc, dans le processus de mon développement à l'intérieur, je dois accueillir une partie du chaos qui est en moi, et je dois accueillir ensuite, donc dans ce cheminement qui me mène vers le centre, je dois accueillir la vie que je porte en moi. Ce processus de croissance naturelle que nous portons et qui n'implique absolument aucun effort, puisque je suis censé, ici à l'étape du minéral, apprendre le lâcher prise. Et apprendre le lâcher prise, c'est tout simplement accueillir ses peurs. Il n'y a pas de lâcher prise sans l'accueil de mes peurs. Sinon, je génère un conflit dans cette propulsion, dans cette expansion que je porte en moi. Et je pense que beaucoup de personnes souffrent, nous souffrons très souvent, parce que nous n'accueillons pas, cet élan, on veut le freiner, comme je le disais tout à l'heure. Donc lorsque j'arrive à l'étape du végétal et que j'accueille la vie, qui est en moi, eh bien, cette vie qui est en train de germer, qui est là, ben, c'est elle, en fait, qui me donne l'ancrage terrestre. C'est pour ça que celle-là, je l'ai appelée le lâcher-prise. Et la deuxième étape, celle du végétal, eh bien, c'est l'ancrage. J'arrive sur terre, hop, voilà, de la naissance à la vie, je suis bien là. Salut, coucou, j'arrive sur terre, à me voir. Une fois que je traverse cette étape, j'arrive à l'étape animale. C'est le règne animal qui est là, et puis on le porte tous en nous. Et puis je suis là, puis je regarde, donne-moi à manger, donne-moi, etc. Je te pique, c'est le clan, voilà, c'est l'animal, c'est la survie. C'est cette énergie de vie que nous portons tous en nous. Hein. Cette énergie animale, nous la portons. C'est elle qui fait que le matin, je prends ma sagaie, je prends mon bouclier, et puis je vais aller chasser. Aujourd'hui, non, c'est la pachicaille, c'est la même chose. Hein. Oui. Mais c'est exactement la même chose. Beaucoup d'hommes d'affaires sont à l'étape animale. Ils ne sont pas à l'étape humaine. Quand ils sont impitoyables, beaucoup de tous ces pays totalitaires, même l'Occident, même la France, sont des pays totalitaires. C'était Coluche qui disait, je ne sais plus comment il disait, en France, c'est le peuple qui vote pour son dictateur. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, l'étape animale, je l'ai associée à l'étape de l'énergie. Le principe de l'énergie vitale, c'est aussi le clan. C'est la procréation, voilà, c'est ma famille. Je protège ma famille, je vais travailler pour ma famille. Attention, pas toucher. C'est le règne aussi de pouvoir. C'est les rapports de pouvoir que nous établissons les uns avec les autres.
C'est l'idée de
territoire aussi. Oui, c'est en lien aussi avec le territoire, c'est ça. C'est les rapports de force que j'établis avec l'autre. Les rapports d'amour, ça sera après, ça sera l'étape de l'humain. C'est là où je commence à établir des rapports d'amour. Quand j'arrive à l'étape de l'humain, donc quand je poursuis ce processus, donc aujourd'hui, il semblerait que nous soyons entre l'animal et l'humain. Nous oscillons entre les deux. Tantôt nous allons vers l'humain, tantôt nous revenons vers l'animal, et puis on le sent très bien en nous. Hein. Parfois on est voilà, plein de colère, plein de haine, etc., qui est donc en lien avec cet animal. J'ai le stress pour me faire du fric, pour ceci, pour cela, voilà, sur un plan temporel. Et puis tantôt, ben, je me sens vachement plus humain, plus cool. Mais l'étape de l'humain, donc dont je lui ai donné la correspondance sur le plan émotionnel à celle de la guérison, qui est en lien aussi bien sûr avec l'énergie de l'amour, puisque la guérison et l'amour, j'allais dire, sont presque synonymes quelque part, puisque lorsque nous sommes dans l'amour, le mot guérison n'a même pas de sens. L'amour est une énergie purificatrice, je veux dire, par définition, par essence. La guérison fait partie intrinsèque de l'amour, nous savons bien. Donc cette étape de l'humain, eh bien, c'est l'étape où nous en sommes là tous, vous qui êtes là, c'est l'étape du développement personnel, c'est l'étape du travail sur soi, c'est l'étape du regard, c'est l'étape du recul sur moi. Je m'observe, je me regarde, je me pose des questions, je m'interroge. Qui suis-je? Ma raison existentielle? Mon but dans la vie? Le sens? La quête de sens? C'est à l'étape de l'humain que nous nous posons les questions. À l'étape animale, on ne se pose pas toutes ces questions. On se construit plein de maisons quand on a plein de fric, des entreprises, etc. On se sent extrêmement puissant, et puis c'est souvent dans les derniers jours de sa vie. Hein. Voilà. Et puis quand on se sent complètement appelé par ici, hein, et c'est souvent les vibrations de la mort qui suscitent ça, à ce moment-là, on commence à s'interroger, ou c'est lorsqu'il y a une maladie terrible qui nous arrive qu'on commence à s'interroger, mais à ce moment-là, il est trop tard. Oui, à ce moment-là, il est trop tard, et puis on est là, et le gros stress existentiel, pourquoi j'existe, d'où vient, je suis, etc., voilà, qui nous arrive. Donc cette étape humaine, ben oui, ben, quelque part, c'est un petit peu lourd. Nous sommes là, entre les deux, et nous essayons d'y aller. Et nous sommes d'accord, mon Dieu, c'est difficile de se sentir pleinement humain. L'étape de l'humain, on peut en parler tous ensemble. Je pense que toutes les personnes qui sont ici, on pourrait poursuivre le débat jusqu'à je ne sais pas quelle heure. C'est l'étape, je la résume, c'est l'étape de l'empathie, c'est l'étape de la compassion, c'est l'étape du repentir, entre guillemets. C'est l'étape de la compunction, c'est l'étape où je m'interroge, où je pleure, où je prends conscience du nettoyage. Je veux me nettoyer de toute mon histoire. Je veux me nettoyer de toutes ces peurs, de tout ce que j'ai hérité durant ce voyage. Parce que j'ai envie d'y arriver ici pur. Quand on arrive au moi créateur, nous sommes extrêmement légers, nous allons en parler tout à l'heure. Il y a une grande légèreté là. Parce qu'on accueille absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Toutes ces étapes qui nous traversent, le lâcher prise, c'est ça, c'est que j'accueille toutes ces étapes. Il n'y a plus d'aspiration, il n'y a plus de but. Je suis. Et encore, le je suis déjà est de trop, hein, quelque part. Donc cette étape humaine, ben oui, c'est l'étape aussi de l'amour, c'est l'étape du pardon, qu'on ne trouvera pas à l'étape du moi créateur et du divin. Parce qu'à l'étape du divin, il n'y a pas de culpabilité. Hein. Je suis. À l'étape du divin, on ne s'excuse pas de vivre avant de mourir. Hein. C'est clair. À l'étape de l'humain, on s'excuse encore. Excusez-moi, je suis désolé. Et puis on est touché par tout ce qui se passe dans la vie. On a envie de secourir les uns les autres. C'est l'étape humanitaire. On a envie de secourir le monde. On a envie de casser toutes ces frontières. On a envie de créer un grand monde d'amour et de paix. Voilà cette étape. Et lorsqu'on arrive à l'étape du divin, l'étape du moi créateur, que j'ai appelé l'étape de l'adéquation, c'est un autre lâcher-prise qui n'a plus rien à voir avec ce lâcher-prise de cette étape du minéral. C'est un autre lâcher-prise. C'est tout est parfait tel que c'est. Je n'ai absolument aucun effort à fournir. La croissance procède de quelque chose d'absolument naturel. Seules les peurs dont je suis conscient m'empêchent de croître et d'éclore. Et alors j'observe tout simplement les peurs qui sont autour de moi. Et puis je leur fais plein de petits bisous. Voilà, tout simplement. Je ne génère plus de conflit avec ces peurs. Je ne crée pas un rapport de dualité, un rapport de force avec ces peurs. Je les accueille telles qu'elles sont. J'œuvre en quelque sorte avec les données de ma réalité pour composer mon tableau de vie. Il n'y a pas d'autre réalité que ma réalité. Voilà l'étape du moi créateur. Il n'y a pas d'autre moi que moi. Et quand on arrive à cette étape, que nous connaissons tous, rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure, la matrice cosmique, elle palpite. Nous brassons tous ces étapes. Tantôt nous sommes au minéral, au végétal, et des fois on revient d'un seul coup à l'étape du minéral, les peurs qui reviennent. Mon Dieu, ça y est. Mais lorsque nous avons goûté réellement l'étape du moi créateur, nous savons que ce n'est qu'un état qui a lâché prise. Et puis quand je suis repris par mes peurs, je m'inspire et je les accueille, et elles sont là. Et j'accueille toutes ces saisons qui me traversent, printemps, été, automne, hiver. Je vis ces saisons à l'intérieur. Je suis en hiver, je suis en introspection, je suis en hibernation, je pleure, je mets une musique triste. Et je sais que c'est un nettoyage. C'est ça la pleine conscience. C'est cette étape-là du moi créateur, où j'accueille pleinement tout ce qui se passe en moi, tout ce qui me traverse. Je suis en colère avec un tel. Hein, marchand, je me suis engueulé avec lui. Hein, on s'est bouffé, etc. Mais très vite, en quelques secondes après, je sais respirer par le ventre. J'aime à ce moment-là que mon ventre soit rempli. Et pas avec ce mythe-là de Gréco, où on rentre son ventre et on s'étouffe, on respire pas. Et voilà. Mais non, on respire avec le ventre. On inspire. Voilà, et puis j'inspire la vie. Et j'expire. Nous accueillons pleinement. Vous avez bien vu, beaucoup de bouddhistes, beaucoup de méditants ont tous un ventre légèrement rond. Hein. Certainement pas un ventre plat. Donc voilà un petit peu le processus de cette matrice cosmique et de sa palpitation. Alors, avant d'attaquer, d'aborder, pourquoi je dis attaquer ? Tiens, c'est l'animal en moi qui a parlé. Jacques, voilà.
Merci.
Est-ce que vous avez des questions à poser sur la palpitation de cette matrice-là ?
Qui ont d'autres points communs, enfin points communs ou qui ont aussi des interprétations différentes.
Sans doute. Après, ça n'appartient pas de parler à leur place.
Non, mais par rapport au mandala.
Oui, non, mais sans doute, hein, c'est possible qu'il y a plein de personnes, je veux dire, qu'on la regarde, mais il me semble qu'on se rejoint presque tous, aussi bien les bouddhistes ou les hindous, puisque le mandala à l'origine, je veux dire, en tous les cas, les mandalas tibétains ont été inspirés par les yantras hindous, on retrouve cette palpitation de la matrice. Presque de la même manière. Les bouddhistes parlent aussi quelque part de cette matrice cosmique avec d'autres termes.
Mais ça m'a finalement fait penser à Jung quand même, son travail sur le mandala. Jung parle d'un processus d'individuation. Vous l'avez pas.
Si, bien évidemment, l'homme est censé aller, c'est simple, bien sûr. Ça a été mon niveau de chevet. Okay. Bien sûr. J'ai pas tout inventé, hein. J'ai assemblé. Quelque part. Mais c'est ce que je disais, que tout ce processus, nous le savons, nous portons en nous. Maintenant, nous, en Occident, on a besoin de rationaliser, de poser des mots. Nous voulons comprendre et la compréhension est importante. En même temps, la compréhension est de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'on comprend ce processus et on lâche prise avec cette compréhension. De la même manière, lorsque nous créons dans la peinture, c'est exactement la même chose. Et donc, sur le plan de, pour ceux qui peignent déjà un petit peu, le processus de la création fonctionne de la même manière. On part du minéral, végétal, animal, humain et divin. Ce sont les différentes étapes de la création. Quand je prends mon support et que je pose des choses dessus, je pose d'abord mon chaos et progressivement, je l'organise à travers différentes étapes. C'est-à-dire l'état végétal, je vais commencer à lui mettre un petit peu de vie, je vais éventuellement mettre des personnages, des formes, des symboles. Ensuite, à l'étape animale, je vais y mettre de l'énergie, des couleurs un petit peu plus vives. À l'étape humaine, je vais y mettre de la conscience, je vais dialoguer avec mon tableau, le rapport entre les couleurs, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a une cohérence esthétique, etc. Et puis l'étape du divin, c'est celui de la lumière, où je vais travailler mes dernières touches de lumière. Donc ces étapes, nous les retrouvons aussi dans beaucoup de choses, aussi bien dans le processus créatif, aussi bien dans la musique, aussi bien, je veux dire, dans le théâtre, pour ceux qui étaient là, on retrouve exactement, je veux dire, ces mêmes processus. Lorsqu'on monte sur scène, j'imagine, au début, on ressent un chaos, et puis progressivement, on arrive à sa lumière, plus on avance, je pense, je ne sais pas. Je vois une comédienne qui est là. Pardon ? Ouais, non, mais il y a des étapes aussi, lorsqu'on arrive sur scène, le vertige, le trac, les émotions chaotiques qui nous traversent. Et on doit se respirer et accueillir tout ça. Et je pense que ce processus créatif, ben, nous portons tous en nous. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi à poser par rapport à ce processus créatif? Vous avez tout compris?
Non.
Tout le monde est d'accord.
Parce que j'ai commencé, quand tu crées ton mandala, tu vas commencer par te mettre dans ces différents états. Dans cet ordre-là.
En quelque sorte. Hein. En quelque sorte. Alors, donc là, c'était un petit peu sur la matrice cosmique. Donc, on va aborder maintenant le mandala un peu, d'une façon un peu plus concrète. Alors, comme je vous avais dit au départ, je n'ai pas l'intention ni la prétention de vous parler du mandala comme un exégète ou un historien du mandala. Je n'ai pas les compétences requises et très objectivement et très sincèrement, je m'en fous.
Je m'en fous.
Voilà, je suis avant tout un plasticien, donc ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le processus créatif, comment il fonctionne, parce que je suis un créateur, donc pour moi c'était très très important de comprendre comment il fonctionne, et ensuite ce qui m'intéresse, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est comment on va aborder ce mandala. Comment il fonctionne, etc., etc. Donc pour moi, c'est un mais on va. Je vais quand même vous donner quelques petits repères, évidemment. Hein. Effectivement, j'ai mis beaucoup de choses sur les mandalas, mais pour moi, ça m'a semblé. Ça me semblerait presque déplacé d'en parler. Ça serait plus à un moine bouddhiste, à la limite, d'en parler. Hein. Ou à moins que moi, je sois pleinement imprégnés de ce, du bouddhisme ou d'une tradition qui soit en lien avec le mandala, ou comme les Indiens Navarro. Je ne suis pas un Indien Navarro, je ne suis pas un... Donc pour moi, ça me semblerait déplacé. Donc c'est plus un respect aussi pour toutes ces traditions de ne pas en parler, juste, je vais l'aborder d'une façon très simple. Alors, donc je l'ai abordé d'une façon, comme vous avez vu, très cosmique et très universelle. Je vais le ramener maintenant à un plan beaucoup plus temporel, plus concret. De façon plus concrète, qu'est-ce que le mandala? Vaste définition. Tous ceux qui se sont intéressés au mandala ont regardé sur Internet et puis défensifs, c'est-à-dire des définitions toutes faites, vous allez en trouver. Le mandala du sanskrit, cercle sacré, etc. Je ne suis pas sûr que ça nous apporte quelque chose de poser de cette façon-là. On regarde sur Internet, sur les bouquins, il y a plein de pages où ils vous racontent des tas de choses. On a l'impression qu'ils récitent les mêmes trucs. Et quand on rencontre le mandala, quand on va vraiment à la rencontre du mandala et qu'on y voit d'une façon très, très, j'allais dire, à la fois intuitive et entière, on s'aperçoit que le mandala n'est pas quelque chose. Il ne porte pas de définition. Il n'a pas de définition puisque, comme je vous ai dit, c'est cette grande matrice cosmique. Comment pourrais-je définir le mandala? C'est pas possible. Il n'a pas de nom. Et de toute façon, si je posais une définition sur le mandala, je l'enfermerais quelque part. Je le réduirais. Et j'ai pas envie de réduire le mandala. Nous, effectivement, nous allons lui apporter une correspondance temporelle. Et cette correspondance temporelle, elle est extrêmement simple. Dès l'instant où je vais tracer un cercle, regardez, voilà, je trace un cercle, j'ai délimité ici un espace. Et il devient sacré par le seul fait que j'ai tracé. J'ai délimité mon territoire. Y a-t-il, en dehors de l'humain, une espèce vivante capable de tracer un cercle et de le délimiter et de dire c'est mon territoire? Nous sommes les seuls. C'est bien l'expression de notre intelligence. La question se pose, est-ce que nous sommes les héritiers finalement de ce monde? C'est une grande question. Sommes-nous les héritiers privilégiés plutôt de ce monde? Grande question. Nous sommes les seuls. Et si jamais je mets un point ici, là c'est quoi ça? C'est moi, j'existe, c'est moi, je. Voilà ce qui s'est passé dans les grottes rupestres il y a des milliers et des milliers d'années.
C'est pas une image.
Non, mais le tracer de cette façon-là, d'une façon graphique, je parle. Le tracer d'une façon graphique. Oui, on a un tracé graphique. Nous sommes les seuls à pouvoir graphiquement. Graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une représentation symbolique. Nous sommes les seuls à pouvoir communiquer d'une façon symbolique. Tu parlais de Carl Jung, justement, il a beaucoup travaillé sur l'homme et ses symboles. Nous sommes les seuls à pouvoir, effectivement, nous détacher et avoir une représentation symbolique de mon moi. Ça, c'est moi. Et je le pose. Et voilà, le voilà. Ça, c'est moi. Je suis capable, à un moment donné, de mettre le recul, et j'opère un recul. Voilà la puissance et la force de la création à travers les siècles, c'est ça. C'est qu'il y a une distance entre moi et mon expression. Vous voulez poser une question?
Une question que j'ai définition, en fait, qui remet en cause le fait qu'il n'y a que l'homme qui est capable de se représenter comme ça. Et que les expériences scientifiques montrent que même l'animal, c'est tout. On plus on étudie, plus on s'aperçoit que même chez les animaux, on peut trouver ça.
Il y a des éléphants qui savent.
Donc, ça laisse un peu regarder. Il y a beaucoup de choses dont on est découvre. On se croyait les seuls à pouvoir communiquer, les seuls à avoir des émotions. Et plus on étudie, plus on approfondit, plus on s'aperçoit que c'est faux. Que les animaux peuvent avoir des émotions. Et qu'ils peuvent avoir la conscience de même à travers des expériences très scientifiques. Du coup, ça pose question. Quelle différence entre le règne humain, le règne animal, le règne végétal? On voit que même le végétal, à travers certaines expériences, contrairement à ce qu'on croyait, communique entre eux,
Alors, ce que tu dis, tout à fait juste, hein, je l'entends pleinement et je ne souhaiterais pas, je veux dire, forcément polémiquer parce que je trouve ça tout à fait juste. En revanche, je voulais juste apporter cette distinction que j'ai précisée. Je parle bien quand même d'une représentation graphique. Et je crois que c'est important aussi de souligner une représentation graphique avec une conscience qui est posée dessus. Alors maintenant, effectivement, il y a un grand mystère au niveau des animaux. Et là, au niveau de tout à l'heure, de la matrice racine qui parle vite, va savoir, et là, effectivement, va savoir si, comme disent, par exemple, les chamans qui parlent aussi de réincarnation sur un plan animal, eh bien oui, peut-être qu'il y a des réincarnations et que nous réincarnons, ben, ils nous disent aussi par de ça. Peut-être, oui. Et effectivement, on a une intelligence qui est là et... mais qui est différente, why not? Après vous. Oui?
En fait, on est en train de s'exprimer que la limite est floue, il n'y a pas de barrière, mais il y a quand même un degré de conscience, enfin de prise en. De recul aussi. Et le mot dessin, D-E-2-S-I-N, au XVIIe siècle, ça s'écrivait D-E-2-S-E-I-N. C'est la projection, c'est ça, il y a de l'humain. Donc il y a des degrés, mais il y a. Enfin voilà. Je sens qu'il y a quand même. Ça veut dire
peut-être. Il y a des sentiments comme ça. Non, mais si vous ne vous pas. Oui. Oui.
Toujours est-il. Toujours est-il, si vous me permettez, on va partir quand même au moins d'un repère, sinon on va pas avancer. D'accord ? Pardon ? C'est un postulat en quelque sorte, absolument, merci. Voilà. Donc, on va partir de ce postulat-là. On s'aperçoit que, depuis des temps très reculés, l'être humain a toujours exprimé le mystère de la vie par un cercle avec un point à l'intérieur. Ça a toujours été ça. Le point a toujours symbolisé le mystère de la création, et là, quelque part, sa manifestation. On va dire en quelque sorte ici c'est Dieu et tout ça symbolise son territoire et la manifestation, c'est-à-dire sa création. Créateur, création. Et on le retrouve dans beaucoup de civilisations et encore aujourd'hui, même je veux dire, dans les symboles du soleil, il est symbolisé par un cercle avec un point. Le Dieu aura aussi, je crois qu'il est symbolisé avec un cercle, avec un point. Donc on s'aperçoit de la puissance, surtout j'allais dire du point, parce que si je prends un point et je prends la loupe, il a une circonférence. Donc finalement le point, comme le disent la plupart des gens, et je suis absolument d'accord, le point est le plus puissant de tous les symboles. Parce qu'il porte et le centre et la périphérie. Il incarne le centre et la périphérie. Donc il incarne le tout. L'intérieur et l'extérieur. Voilà sa puissance.
Ça me fait
penser à notre vie. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est assez. Et là, on va y venir, absolument. Donc là, sur un plan symbolique, on s'aperçoit que le cercle et le point sont extrêmement importants et on le retrouve dans toute la création. Partout on le retrouve. Et nous savons bien, de la petite cellule qui nous a créé jusqu'au cosmos, jusqu'aux étoiles, jusqu'au, je veux dire, la création, tout est sphérique, tout est en rond. Et tout tourne dans des mouvements sphériques. Vous prenez un fruit, vous coupez en deux, il y a un centre et une périphérie. Vous jetez un caillou dans l'eau, il va tracer, je veux dire, des cercles, etc. On s'aperçoit autour de nous que tout est circulaire. Nos cellules, les atomes, etc. Je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Comme si, j'allais dire, le mouvement circulaire il m'a toujours semblé qu'il était ancré en nous, nous qui sommes aussi, je veux dire, ancrés à cette terre par cette force de gravité, puis on tourne aussi avec. Donc le mouvement, comme si le mouvement, nous portions en nous ce mouvement circulaire. On se retrouve, bon là on est un petit peu forcé, je veux dire, le cercle en posant les chaises, mais si on avait retiré les chaises et qu'on serait en train de parler, naturellement, nous ferions un cercle. Naturellement, nous le ferions. Quand nous regardons dans certains clubs, dans certaines civilisations, lorsqu'ils font des rituels, ils tracent un cercle pour délimiter, ils ne tracent jamais un carré. Hein. Et nous allons y venir tout à l'heure au carré, puisque comme vous voyez, ici dans la structure de base, j'ai introduit un carré, mais on va y venir tout à l'heure, et vous allez comprendre l'importance du carré dans le mandala, pourquoi j'ai gardé cette structure dans la structure de base. Donc c'est là qu'on voit l'importance du mandala, et on regarde, je veux dire, la dernière fois je disais un truc sur les scientifiques avaient travaillé sur la fameuse fleur de vie, hein. Donc vous connaissez peut-être comment elle est faite, on a retrouvé je crois en Égypte, je ne sais plus dans quel, gravée mystérieusement, et apparemment on ne sait pas comment elle a été gravée cette fleur de vie. Et donc beaucoup de scientifiques sont cassés la tête dessus et ne savent pas comment la pièce gravée il y a des milliers d'années, et c'était un mandala presque idéal, comme si c'était une carte du cosmos, comme je vous l'avais expliqué. Donc il y a beaucoup de mystères de la création. Le mystère de la création, il est partout, et le sang que nous portons en nous. Nous sentons ce mystère qui est en nous. C'est ce qui nous pousse de toute façon à vouloir nous interroger sur le sens de ce mystère. Alors, alors bien sûr, comme je vous avais dit, je ne vais pas vous parler des mandalas tibétains, ni des mandalas des Indiens Navajo, qui eux, en l'occurrence surtout les Indiens Navajo, ont beaucoup travaillé sur la beauté, la guérison, comme vous le savez, par la beauté, donc pour le mandala, à cette puissance-là de guérison par le beau. Et moi, en tant qu'artiste, je trouve ça absolument magnifique. La guérison par le beau, nous sommes d'accord. Cet élan vers le beau, nous portons tous. Et ne s'oppose pas à la laideur. Il n'y a que l'élan vers le beau. Le lien n'existe pas avec le beau. C'est les humains qui le font par comparaison. Comme je vous avais dit, la matrice cosmique, elle n'a pas de dualité. La dualité, c'est une raison, je veux dire, c'est une réalité existentielle. Nous aspirons tous à cette unité, à cette adéquation entre moi et le monde qui m'entoure, moi et les autres. Vous prenez deux oiseaux que vous attachez par la patte, ils ne peuvent pas voler. Il faut couper le fil pour qu'ils puissent voler. Donc la dualité paralyse, c'est ce qui nous empêche de cheminer. Et la dualité, nous la créons entre eux. Le minéral et le moi créateur, c'est-à-dire l'étape du chaos, emblématique par les peurs, et le moi créateur qui palpite par l'amour. Et nous revenons à ta pièce de théâtre Véronique d'hier soir, où ce sont les deux pôles énergétiques qui animent et qui font palpiter cette matrice. Ombre, lumière, amour, peur, et comme nous savons, la peur, elle est directement liée, comme disait Freud, à Thanatos, à la pulsion de mort. Toute émotion de peur que je ressens, elle est liée quelque part, elle m'envoie les vibrations de la mort. Même si c'est très très léger, elle m'envoie de loin les vibrations de la mort. Et l'amour m'envoie tout de suite les pulsions de vie. Il génère chez moi un élan de vie, et c'est pour ça que nous recherchons l'amour partout. Parce que là, il génère un élan de vie. Et dès l'instant où les peurs nous accablent, eh bien, c'est la pulsion de mort qui devient destructrice. Je ne sais pas pourquoi je l'ai parlé, ça. C'est un aparté, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cet aparté. Hein? Pardon? Ah, c'est le bois. Ah non, tout est juste. C'est bien. Ah ben non, c'est bon. Alors, donc le mandala, à partir de cette structure de base, a été bien sûr repris dans énormément de cultures. Donc là, je vais juste survoler un petit peu succinctement, hein, d'accord ? Donc, comme vous savez, nous le retrouvons aussi bien chez nous ici, dans la culture judéo-chrétienne. On regarde les églises, par exemple, on voit des vitraux absolument extraordinaires, des mandalas magnifiques. Vous avez la cathédrale de Chartres, je ne sais pas ceux qui y sont allés, il y a un mandala extraordinaire. On le retrouve un petit peu chez nous aussi, je veux dire chez les musulmans, on le retrouve aussi dans des mosaïques absolument extraordinaires. Donc on ne le retrouve pas que chez les hindous ou que chez les tibétains, ou chez les indiens navarro. On le trouve aussi dans toutes les cultures. Les francs-maçons ont bien repris le symbole, c'est-à-dire c'est bien un mandala qui est tracé, c'est bien un cercle à l'intérieur. Donc on le retrouve un petit peu partout. Donc quelque part, ma façon d'avoir détourné, hein, détourné le terme n'était pas juste ça, d'avoir pris, j'allais dire, des mandalas tibétains et hindous, les structures de base, je l'ai fait, en fait, bien sûr, je m'en suis beaucoup inspiré, mais je l'ai fait pour quelle raison ? Je l'ai fait parce que, ben, eux, ils sont d'une tradition millénaire, donc ils m'ont fait énormément avancer, j'ai un petit peu étudié leur travail, et ils m'ont fait énormément avancer, parce que j'ai pris conscience, effectivement, que, ben oui, le cercle à l'extérieur, c'est ma périphérie, c'est moi. C'est ma bulle. Et quand on s'intéresse au sens du symbole du cercle, eh bien, le cercle, c'est le ventre de ma mère, c'est ce qui m'enveloppe, c'est ce qui me sécurise. C'est le symbole de la vie. En fait, c'est ça. C'est ma bulle. C'est mon territoire. Dans tous les mandalas tibétains, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième cercle. Et là, je me suis interrogé sur ce deuxième cercle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben ça, l'extérieur, puisque c'est ma bulle et que c'est moi, en fait, c'est l'extérieur de ma peau. Et l'intérieur, c'est l'intérieur de ma peau. Et tout ce qui va se passer ici, ça va être toute ma vie à l'intérieur. Et je me suis aussi interrogé sur la raison de ce carré. Que je retrouvais pratiquement tout le temps dans tous les mandalas dans les tibétains, en voilà ici, on retrouve bien, voilà, on retrouve bien, vous voyez, cette cercle et puis ce carré. Donc, et je me suis donc interrogé sur ce carré, et je me suis rendu compte que le carré, sur le plan de la symbolique, était extrêmement important. Il symbolise la stabilité. Un carré ne peut pas rouler. Il est seul. Donc il symbolise absolument, il symbolise l'ancrage, il symbolise les repères, indispensables. Absolument. C'est les repères qu'il m'apporte. Il m'apporte le cadre, tout simplement.
Les quatre points cardinaux.
Les quatre points cardinaux. Et il me donne aussi, alors, parfois on m'a posé la question, on m'a dit, oui, mais dans les yantras, par exemple, hindous et les triangles, pourquoi tu n'introduis pas ce quatrième symbole extrêmement important ? Mais je leur ai dit, non, il n'est pas indispensable, puisque dans le carré, nous avons aussi les triangles ici. Le triangle qui indique une direction. Le triangle porte aussi une agressivité, puisque c'est un petit peu le tranchant d'une flèche. Donc il peut trancher, il est à la fois offensif et défensif, le triangle. Mais nous sommes d'accord. Et en même temps, il indique une direction. Donc nous le trouvons ici. Et il est indispensable dans le mandala, parce que même dans le mandala créatif, il permet de se cacher dans des petits coins. Alors que dans le cercle, là, c'est très très compliqué de se cacher. J'ai vu certains ateliers où on faisait le mandala avec juste un cercle et un centre. Mais avec mon expérience, j'allais dire, en tant que créatif et avec aussi beaucoup de stages, je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué parce qu'on se perd à l'intérieur. On glisse, on roule et on finit par tourner en rond. Donc ça devient dangereux quelque part. Le carré permet de stabiliser le vaisseau, en quelque sorte, puisque c'est là qu'on arrive à la puissance du mandala. Cet alliage de tous ces symboles, c'est-à-dire du centre qui symbolise mon moi créateur profond, le carré qui symbolise l'ancrage, la stabilité, qui procède d'un principe masculin, le cercle procédant d'un principe féminin, l'alliage de ces trois symboles, le centre, le cercle et le carré, créent en fait la puissance du mandala. et il devient comme un vaisseau, on va dire un volant comme vous avez envie, comme un vaisseau qui permet de traverser toutes ces étapes du minéral au végétal, animal, humain, divin, pour atteindre ce mot créateur. C'est un guide, c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de guide. Effectivement, il va me guider vers mon mot créateur et me permettre d'accueillir toutes les turbulences durant le voyage. Voilà pourquoi il est utilisé aussi à titre thérapeutique. À titre thérapeutique, à travers différentes étapes.
C'est une onde de
forme.
Pardon ?
C'est une onde de forme. Oui, si on veut. Mais moi, je préfère plutôt parler d'une sorte de vaisseau, quelque part, qui me permet de traverser ces différentes étapes. Et donc, c'est un voyage que je propose, si ça vous intéresse, à travers des stages. Et vous avez mon prospectus qui parle de ces stages. Il y a des stagiaires ici qui sont là, voilà, et qui connaissent un petit peu ces étapes. Bien sûr, tout à l'heure, on va juste goûter un petit peu un petit. Voilà, c'est juste un encas, en quelque sorte. Voilà. Oui. Ah, sans faire ça, je crois que tu voulais parler. Oui, d'accord. Dis-moi.
Le vaisseau m'a quitté par rapport à ce qu'il a choisi une direction. Il a une direction. Mmh. Par rapport au cercle, il n'a pas de direction déterminée.
Mais là, il y a une direction. La direction, c'est le centre. L'aspiration, le mandala nous aspire vers le centre. Nous sommes aspirés par le centre. Et là, sa puissance. Le vaisseau, c'est le tout. Hein. Ça, c'est la structure, si tu préfères. C'est une structure qui me permet de voyager à travers toutes ces étapes. Minéral, végétal, animal, humain et divin. C'est cette structure qui me stabilise. Donc moi, par exemple, dans mes stages, je propose donc chaque jour une étape où on l'approfondit complètement. Voilà, à travers, bien sûr, différents outils que je mets en place. Et on voyage pour aller à la rencontre de ce moi créateur qui est en moi. Puisque le but, nous savons tous, tout être humain, tous qui sommes là, notre aspiration est l'adéquation entre ce moi profond que je ressens et ce moi conditionné, extérieur, social, qui s'est cherché, qui est plein d'apparence, etc. Nous cherchons tous cette adéquation. Nous souffrons quand il y a un décalage entre ce moi extérieur et ce moi créateur qui est en moi. Et c'est dans ce décalage qu'on s'infiltrer beaucoup de peurs, etc., qui vont m'empêcher d'avancer, de vivre. Dès l'instant où on est en adéquation avec ce moi créateur, toutes les turbulences de la vie, on les appelle. C'est là, c'est mon histoire, je suis là, et c'est l'histoire de cette vie, de ce monde, avec tout son mystère, et puis on l'accueille. Ouais.
Et du coup, par rapport à cette dynamique de la notion, est-ce qu'il y a des règles du jeu sur comment on va dessiner les étapes de dessin du monde ? Est-ce qu'on suit les...
Ah bah oui. Et
où est-ce qu'on... Voilà.
Ah bah c'est lié. C'est lié, bien sûr, à des couleurs.
On commence par l'extérieur.
Pas forcément dans. Non, ça, c'est un schéma qui est lié à la matrice cosmique, qui n'a rien à voir avec la structure du mandala qui va nous permettre de peindre. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Ça, ce sont les étapes, les cinq étapes successives qui déterminent le processus créatif pour atteindre son mode créateur. Pour aller vers ce mode créateur, il y a cinq étapes fondamentales, je veux dire, qui font partie de façon du processus créatif, comme ça a été écrit dans beaucoup de livres. Simplement, moi, je l'ai repris d'une façon par rapport au mandala. Et donc dans, en l'occurrence, dans mes stages, ça va être par rapport à des couleurs. Le minéral, ce sont toutes les couleurs, puisque c'est le processus de la création originelle. Ensuite, le végétal, bien entendu, c'est le vert. L'animal, c'est le rouge. L'humain, c'est le bleu, puisque c'est la conscience, et voilà. Et le divin, c'est le jaune, c'est l'éveil. Puisque les bouddhistes, eux, quand tu arrives au centre, pour eux, c'est l'éveil.
Mais tu commences par dessiner. Tu remontes ça ou... Quand quelqu'un dessine un mandala, il suit ses
divins parcours. Non, le parcours, ça va être différents mandalas que tu vas faire. Différentes étapes. Ouais. C'est
possible. Quand tu dessines un mandala, tu commences par ça.
Tu ne peux pas savoir à quelle étape tu es. Tu es peut-être, toi, au niveau de ta réalisation personnelle, toi, Véronique, tu peux être, tu vois, dans ton étape de réalisation, à l'étape, par exemple, de l'humain. Donc tu vas ressentir quand tu vas créer à un moment donné, si réellement hein, tu as fait un gros travail sur toi, tu vas le voir tout de suite au niveau de ta création, les couleurs qui vont venir, etc. Intuitivement, tu vas avoir toutes les autres étapes seront presque inutiles, puisque tu es là. Le mandala va tout de suite le montrer où tu en es. Et donc c'est ce qu'on va voir, et demain on va analyser, il nous montre exactement où on en est. Je veux dire, le temps étant très limité, on va travailler d'une façon relativement spontanée. À partir de cette structure de base, je vais vous donner des cartons, il y aura des règles, et voilà, et puis vous allez tracer cette structure de base. Alors, il y a des symboles, je vais vous donner, j'ai toute une bibliothèque de symboles, j'ai 400 ou 500 symboles que je vais poser sur une table, et puis le symbole que vous allez choisir, ben vous, voilà, vous allez incarner quelque part, donc le symbole, je ne sais pas, enfin, j'ai pas beaucoup parlé finalement des symboles, mais les symboles, comme il disait Carl Jung, ce sont les archétypes de l'inconscient, voilà, qui nous viennent, et ils sont des représentations schématiques de mon moi. Mais la représentation schématique de mon moi, elle va être, elle bouge. Elle n'est pas stable. Aujourd'hui, sa représentation, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. Donc, on va choisir effectivement un symbole. Vous allez pouvoir choisir un symbole qui va vous représenter. Vous allez le peindre au milieu. Bon, mais c'est ça. J'allais dire, ça ne correspond pas à une étape particulière. Ça va donner une température globale, éventuellement, de là où vous en êtes.
Oui.
Absolument, c'est juste le processus qui part de là jusque là amène cette harmonisation. Dans un atelier d'art thérapie à proprement parler, c'est ce processus qui va nous permettre d'aller vers notre propre créateur. Et plus on accueille sa création aux différentes étapes, c'est-à-dire que si tu es à l'étape du minéral, alors l'étape du minéral, souvent, comment elle se caractérise dans un tableau? Sur le plan créatif, ça se caractérise par « je prends mon tableau », c'est presque une peinture cathartique, pour reprendre un terme cher aux gens de théâtre. C'est une peinture cathartique, c'est-à-dire « je lâche dedans ». Je lâche mes folies, mes délires, etc. Il y a quelque chose de purgatoire, je purge quelque chose. Là, c'est l'étape du minéral « je lâche ou je vide ». Donc, sur un plan thérapeutique, ça va permettre à la personne de vomir, de vider tout ce trop-plein, toutes ces énergies qu'elle en est et qui l'empêchent d'accéder à cette étape du végétal. Et c'est progressivement ensuite que la personne va amener à se construire. Donc, il y a différents types de mandalas. Je ne peux pas tous les aborder. C'est pas possible. Je les aborde durant mes phases, durant les stages de 8 jours. C'est des immersions. 8 jours pleins, intensifs, à Marie-Pierre, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on fait ce voyage thérapeutique, en quelque sorte. Mais c'est un processus progressif. Et donc, il y a les mandalas spontanés, puis après, il y a des mandalas semi-structurés, qui vont te permettre progressivement de structurer. Et donc, c'est ce que j'ai posé ici derrière. Là, nous les voyons, voilà. Ça, ce sont des mandalas structurés qui permettent effectivement de se centrer. Donc, on peut effectivement commencer directement par ces mandalas pour aller, pour se centrer.
Oui.
Alors, ben, écoute, le lait, j'aimerais vous voir le matin, pardon. Voilà, c'est bien de voir le matin avec un petit peu de café, et puis ensuite on passe à autre chose. C'est un petit peu ça, quelque part.
Ben, je ne sais pas. Pourquoi tu as introduit cette notion-là?
Nous la portons quelque part, je veux dire, en nous, l'humain porte cette notion de comparaison, en fait, et nous savons tous, bien sûr, que nous libérer cette comparaison, c'est nous accueillir tel que la nature nous a conçus. Tu regardes autour de toi la nature, il n'y a ni point d'idée. La nature n'est pas naturellement.
C'est pour ça que je n'ai pas compris.
Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Il y a d'abord un malentendu de la compréhension. C'est ce que j'ai dit.
Je viens de dire que je n'en ai pas compris. Je n'avais pas compris cette introduction là, de cette situation-là. Qu'est-ce que tu en as dit?
Tu regardes la nature, un arbre qui est complètement forgé, formé, t'attirera peut-être plus qu'un boulot qui est bien lisse et qui a été canonisé autour de nous comme étant un repère de beauté. Toi, ton cœur va aller vers celui qui est complètement tordu. On va parler par exemple, entre homme et femme, tu vas peut-être être attiré par un mec qui a de la gueule, qui a un truc, plutôt que celui qui est vraiment dans les canons, et tout lisse, etc. Et tu préfères celui qui a de la gueule, qui a un truc, qui est tordu, qui est énorme, etc. Et tu ne sais pas pourquoi, il va te trouver beau, son gros corps, ses gros trucs,
là-dessus, je peux manquer, mais c'est justement ça me déranger une partie du monde.
Sans opposition. Le mot tout est beau. Nous sommes appelés. Le mot c'est un énorme. Le mot c'est il en lien avec un énorme. Oui, mais il en lien avec un élan de croissance. Le mot est un élan que nous portons. C'est cet élan de croissance. C'est-à-dire c'est le mot c'est notre épanouissement en quelque sorte. Nous sommes comme des fleurs, fermées, et puis plus on s'épanouit, plus on est. En fait, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui vont suivre l'atelier, le processus dont tu parlais tout à l'heure, les différentes étapes, etc., consiste à accueillir tout ce qui va sortir, tout ce qui va venir. Plus j'accueille ce qui se passe, et plus je vais beaucoup plus rapidement vers mon adéquation, vers mon créateur. Si je fais quelque chose et que je dis c'est moche, c'est nécessairement des choses que je trouve moches en moi, que je n'accueille pas en moi. C'est lié très souvent à des blessures, à des complexes, à des choses que je porte en moi que je n'avais pas. Plus j'accueille ce qui se passe, même mon chaos, donc si moi je suis à cette étape du minéral et que je pose plein de trucs comme ça, et c'est complètement désorganisé, c'est que je suis à cette étape du chaos et je dois l'accueillir. Si c'est complètement sombre et que je suis dans l'obscurité, je dois accueillir cette obscurité. Comme dit le poète, la lumière naît de l'obscurité. Et celui qui ne sait pas qu'il marche dans l'obscurité, il ne verra sans doute jamais la lumière, puisqu'il ne l'accueille pas cette obscurité. Donc voilà, c'est important d'accueillir absolument tout ce qui sort sur le plan de la création. C'est à partir de là qu'on peut grandir dans la peinture, en utilisant, la peinture comme un médiateur qui nous permet d'accéder à notre moi créateur. Voilà comment le processus créatif se développe progressivement. C'est à chaque fois en accueillant successivement tous les mandalas que vous allez faire ou toutes les créations que vous allez faire.
Ça fait moins peur de prendre son pinceau et de la peinture et de commencer à dessiner. Parce que moi, je me dis, non, si c'est pas beau, je ne vais pas y aller, je ne peux pas, je ne sais pas faire.
Donc, dès l'instant où on dit si c'est pas beau, ça ne plaît pas, c'est que je l'oppose à quelque chose de laid. Ça veut dire que quelque part, j'ai une définition du laid qui est en moi, si je ne l'ai pas. Et que j'accueille ce processus, d'élan vers le beau naturel. Tout ce que je fais nécessairement est juste et beau. Puisque je ne l'oppose pas à quelque chose. Tu comprends? Dès l'instant où tu me dis, Ah non, j'y vais pas. Moi, je ne m'autorise pas à dessiner un pain parce que je vais faire des choses moches. Donc, dès que tu as posé le lait, c'est que tu as une problématique avec l'énergie de vie.
C'est qu'il y a trop de
vie. Non, il y a une problématique avec l'énergie de vie, nécessairement en soi. Spécifiquement à ceux qui participent à l'atelier de Mandala donc tout à l'heure. Donc c'est important, bien sûr, d'accueillir absolument tout ce qui se passe. Accueillir pleinement ce qui se passe, c'est vous accueillir déjà vous-même. Ne cherchez pas à vous dire « je vais créer une œuvre, un mandala qui va supplanter toutes les œuvres de l'humanité ». C'est l'ego qui nous parle. Voilà. Ah non, je ne m'autorise pas parce qu'il y a des peintres qui font des choses absolument géniales, etc. Et moi, je ne pourrais jamais y arriver. Hein. C'est encore un processus de comparaison. Hein. C'est un processus de comparaison qui est tout simplement lié à une expérience. C'est tout. Il a plus d'expérience que vous, ça s'arrête là. C'est tout. C'est l'expérience et la pratique qui fait qu'à un moment donné, il y a un agencement qui va faire que c'est tout. Quoi. Mais pour moi, et je sais très bien Marie-Pierre dans mes ateliers, je ne me pose pas la question. Il y a des fois des artistes professionnels qui viennent, et pour moi, ce qu'ils font n'est pas forcément plus beau qu'un débutant qui a posé avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'émotion, parce qu'il le représente. Mon Dieu, au nom de quoi oserais-je le juger? Il y a sans doute des maladresses entre guillemets techniques. Bien sûr, mais ça c'est un apprentissage qui vient avec le temps. Donc accueillez avec beaucoup d'humilité que vous êtes débutant, si vous êtes débutant, c'est à partir de là que vous allez progresser. C'est une grande humilité d'accueillir que je suis débutant là. Ne pas oser y aller, c'est quelque part très prétentieux, hein, en vérité. Ah oui. C'est qu'à un moment donné, ah non, mais j'y vais pas parce que, non. Non, j'ai envie de m'exprimer, j'y vais en toute modestie, hein, en toute humilité, je suis débutant. Voilà, j'y vais avec la modestie du débutant et j'ai ce droit de m'exprimer. La création, elle n'est pas l'apanage des artistes professionnels. Heureusement, aujourd'hui, nous savons bien. C'est un support d'expression accessible à tout un chacun. Au nom de quoi serait-il l'apanage de peintres professionnels? Au nom de quoi, moi, par exemple, qui ne suis pas un danseur professionnel, j'aurais pas le droit chez moi de bouger comme ça et de danser. Au nom de quoi, chez moi, j'aurais pas le droit de chanter. Je n'ai pas l'ambition d'être un chanteur professionnel, je chante pour le plaisir, je danse pour le plaisir. Et ben, la peinture, c'est exactement la même chose, je peins pour le plaisir, sans autre prétention que celle-là. Donc c'est avec cet état d'esprit que je vous invite à peindre le mandala. Voilà.